Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. C'est une des séquences fortes du documentaire consacré à Emmanuel Macron et diffusé jeudi dernier dans Envoyé spécial sur France 2. On y entend le pas encore président de la République expliquer à ses équipes comment il entend déstabiliser une partie de la droite, celle qui ne se reconnaît pas dans le candidat François Fillon. Stratégie manifestement payante puisqu'elle l'a menée jusqu'à l'Élysée, d'où sans doute son intention de la reproduire en vue des législatives en allant piocher à droite son Premier ministre. La nomination d'Édouard Philippe est encore trop récente pour évaluer son impact sur sa famille d'origine, mais impact il y aura, c'est une certitude. Or pour les Républicains, va désormais se poser la question qui se pose déjà depuis un moment au Parti Socialiste, à savoir, sommes-nous dans la majorité ou dans l'opposition ? Un jour dans l'une, un jour dans l'autre. Les scrutins des 11 et 18 juin prochains permettront d'évaluer les forces de chacun et de préciser leur positionnement. Faute de majorité claire, le Parlement pourrait retrouver un rôle qu'il avait fini par perdre au fil de la Ve République. Mais faute d'opposition stable, celle-ci sera-t-elle en mesure d'en profiter ? À quoi va servir l'opposition ? C'est notre question du soir. C'est une question que je vais poser à trois invités, à commencer par vous, Mariade Courandet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes constitutionnaliste, professeur de droit public à Paris 1, c'est la Sorbonne, spécialiste des institutions de la Ve République. Pour discuter avec vous, Nicolas Rousselier, bonsoir.
Bonsoir.
Historien, maître de conférence à Sciences Po Paris, La force de gouverner, c'est l'ouvrage que vous avez publié chez Gallimard, c'était en 2015. Et puis notre troisième invité se trouve à Lille, en duplex des studios de France Bleu Nord. Il s'agit de Pierre Mathiot. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politiste, professeur de sciences politiques à Sciences Po Lille. Et c'est à vous que je voulais poser la première question. Je la pose d'ailleurs aux trois invités, qui est une question a priori assez simple, encore que vu la situation actuelle. Qui représente aujourd'hui l'opposition, Pierre Mathiot ?
Vous devriez utiliser le pluriel, je pense, puisque je crois qu'on est parti pour avoir des oppositions à un noyau central qui s'articulera autour de La République En Marche. Donc c'est plutôt des oppositions. On ne sait pas encore si ces oppositions seront toutes parlementaires, c'est-à-dire si elles auront des représentants à l'Assemblée nationale en juin prochain. Mais on va dire qu'il y a probablement aujourd'hui deux oppositions assez clairement identifiées qui sont le Front National d'un côté, la France Insoumise de l'autre. Et puis il y a deux autres catégories d'opposition qui sont, elles, actuellement un peu chamboulées par la stratégie d'Emmanuel Macron, qui sont, disons, le Parti Socialiste, la galaxie socialiste d'un côté, et puis de l'autre côté, les Républicains et l'UDI.
Plusieurs niveaux d'opposition, c'est quelque chose qui est relativement inédit sous la Ve République, Mariade Courandet ?
Alors, ce qui est inédit, c'est le fait que le gouvernement et le président risquent de se trouver pris en tenaille entre une opposition assez forte à l'extrême droite et dans la gauche radicale. Ça, c'est nouveau, parce qu'il y a toujours une opposition, toujours quelques membres d'extrême droite, enfin pas toujours, non, quelquefois quelques membres d'extrême droite et souvent une gauche assez forte, mais là, il va vraiment être pris en tenaille, et ça, c'est vraiment nouveau.
Donc il y a une opposition qu'on pourrait qualifier de radicale, une opposition qui pourrait être fluctuante ou constructive. Je ne sais pas d'ailleurs quel serait le terme le plus approprié. Nicolas Rousselier.
Oui, je pense que la pluralité des oppositions peut être pensée, disons de manière horizontale, dans le paysage que Pierre Mathiot vient de décrire. Et puis, elle peut aussi être pensée dans le temps, dans son évolution, sans faire un jeu de mots. On va voir les choses en marchant, c'est-à-dire qu'effectivement, l'opposition ne sera pas fixée à l'avance de manière mathématique, de même que la majorité non plus. Donc on se trouve, de ce point de vue-là, mais c'est une similarité, il ne faut pas penser que c'est un retour à l'ancien et au passé, on se retrouve dans une situation qui a une similarité avec les républiques parlementaires que la France a connues sous la 3e et la 4e. Le problème, quand nous réfléchissons, c'est que la 3e République, et plus encore la 4e, ont une tellement mauvaise image qu'on oublie de penser en fait ce qui a été le parlementarisme qui construisait des majorités fluctuantes, et on a oublié quels pouvaient être les avantages de cette construction. Parce qu'évidemment, l'une comme l'autre, la 3e s'est mal terminée, c'est le moins qu'on puisse dire, et la 4e aussi. Donc aujourd'hui, on a cette réflexion à faire sur ce que peut être à la fois le rôle de l'opposition, mais du coup, plus largement, ce que peut être un retour ou disons une renaissance. Je pense qu'elle sera partielle, elle est c'est une hypothèse, mais c'est pas la seule, une renaissance du Parlement.
Alors que pensez-vous les uns et les autres de cette hypothèse? Enfin, pas forcément vous, Nicolas Rousselier, puisque c'est vous qui venez de l'émettre, mais Pierre Mathiot et Marianne Courandé. Pierre Mathiot.
Alors d'abord, il faut attendre les résultats des élections législatives, puisque évidemment les scénarios qu'on vient de tracer tous les trois sont possibles, probables, mais leur degré d'acuité ou d'intensité va dépendre du nombre de parlementaires qui vont être élus sous l'étiquette de la France Insoumise, sous l'étiquette du Front National, éventuellement sous l'étiquette du PS, de l'UDI, parce que probablement que l'UDI fera un groupe à part des Républicains. Donc et voilà, comme dirait l'autre, combien de divisions, hein? Est-ce qu'ils vont avoir des groupes parlementaires? Est-ce que il y aura plus ou moins de 15 députés si ça reste à 15 le nombre de députés pour faire un groupe parlementaire, c'est-à-dire le niveau de moyens dont disposeront ces groupes. Et puis attention, si jamais certains de ces groupes, notamment la droite radicale et la gauche radicale, pour aller vite, pour les caractériser comme ça rapidement, s'ils n'ont pas de députés ou s'ils n'ont pas assez pour avoir un groupe parlementaire, à ce moment-là, l'hypothèse qu'on peut faire aussi, c'est qu'il y aura ce qui se passera au Parlement, puis il y aura aussi ce qui se passera dans la rue. Vous voyez, donc ça veut dire que l'économie générale du travail de l'Assemblée nationale et de son équilibre général va dépendre quand même de l'équilibre des forces au sein de cette Assemblée nationale. Ce qu'on peut simplement dire quand même, pour faire référence au moins à la 4e République dont a parlé Nicolas Rousselier, c'est qu'on aura probablement deux types d'opposition, pour aller vite. Une opposition qui ne sera pas soluble dans la majorité, enfin des oppositions à la droite et à la gauche qui refuseront, je dirais, les appels du pied du gouvernement et qui refuseront de voter systématiquement. Et puis on aura probablement une autre type d'opposition un peu à la gauche du gouvernement actuel et à sa droite, qui sera probablement une opposition parfois hésitante, qui sera amenée un peu comme entre 88 et 91 parfois à voter certains textes gouvernementaux, ou parfois simplement à ne pas s'y opposer, en ne s'y opposant pas, à permettre leur adoption. Et puis peut-être que dans ces groupes-là, eh bien on aura des individualités qui petit à petit quitteront le navire initial de Les Républicains, le PS, si le PS existe encore, pour rejoindre petit à petit la majorité présidentielle.
Marianne Courandé, vous qui êtes constitutionnaliste, est-ce que on peut considérer que les institutions de la Ve République permettent d'évoquer de manière crédible cette hypothèse d'un retour à ce qu'était la situation sous la 4e République? Ou bien les institutions étant tellement différentes, de toute manière, c'est une comparaison qui vous pourrait sembler peut-être un petit peu, comment dire, trop audacieuse?
Alors, comparaison, oui, mais à relativiser. C'est-à-dire qu'effectivement, comme sous, j'allais dire, surtout la 3e République, peut-être plus que la 4e, on va avoir, possiblement, effectivement, faut attendre les législatives qui sont les élections les plus importantes, mais on risque d'avoir un découpage de la classe politique tel qu'il faudra des coalitions, des combinaisons qui peuvent être diverses pour gouverner. Alors, ces coalitions, les configurations principalement sont les suivantes. Soit on peut avoir la France en marche qui a derrière M. Macron une majorité absolue. Peu probable, mais pas totalement à exclure. Soit une majorité absolue d'un parti contre lui, là on serait dans une vraie cohabitation. Ça semble assez peu probable aussi parce qu'on ne voit pas un seul parti suffisamment fort pour ça pour l'instant, me semble-t-il. Soit une majorité relative, ça a été évoqué, comme sous Michel Rocard qui avait dû recourir sans cesse au 49-3, soit encore l'impossibilité d'arriver à constituer une majorité et effectivement, comme sous la 3e, être obligé de faire des majorités, de constituer des majorités d'idées pour chaque texte. Comme ça se produit très souvent en fait aux États-Unis, parce que le président des États-Unis, ne l'oublions pas, est obligé d'aller négocier avec chaque parlementaire pour obtenir le vote des lois auxquelles il tient.
Et à chaque fois aux États-Unis, on est dans un régime présidentiel.
Régime présidentiel qui est fondamentalement différent. Nous, on est bien en régime parlementaire, même si c'est un régime parlementaire un peu particulier, qu'on appelle souvent semi-présidentiel, puisque notre président, justement, ne peut pas mettre son veto aux lois. En revanche, il a le pouvoir énorme de dissoudre et il a un gouvernement, surtout, dont il a besoin, un gouvernement responsable devant le Parlement, qui est censé avoir l'essentiel du pouvoir. Donc déjà, une configuration qui peut se rapprocher de celle de la 4e et qui peut effectivement, comme vous le disiez, conduire à un Parlement qui parlemente.
Nicolas Rousselier.
Une des caractéristiques de l'époque de la 3e République et encore en partie de la 4e République, c'est qu'il y avait une tradition qu'on pourrait presque appeler intellectuelle, culturelle, on pourrait même dire que c'était une sorte de ethos parlementaire, à savoir que les parlementaires considéraient de leur point d'honneur d'avoir leur idée d'avoir leur propre pensée et ce qu'on appelle la liberté de conscience. Dans une expression qui a aussi un double sens avec l'histoire de la laïcité, et c'est intéressant. Autrement dit, c'était de l'honneur d'un député de ne pas être soumis à des consignes de parti. Alors c'est toute une tradition, une tradition qui a duré encore jusque dans les années 1960. On pourrait dire donc un trait culturel. Donc aujourd'hui, on est passé depuis maintenant plus de 50 ans à une toute autre formation des parlementaires, une toute autre, j'allais dire, un tout autre conditionnement de leur vie politique, de leur appartenance au parti. Donc on a du mal à imaginer, si vous voulez, qu'on pourrait revenir à cette tradition qui a beaucoup de lettres de noblesse, moi je dirais, en l'ayant étudié comme historien.
Si ce n'est que si on fait l'hypothèse que les nouveaux parlementaires qui vont arriver seront témoins aussi d'un fort renouvellement avec notamment les députés d'En Marche, il n'y aura peut-être pas toute cette ancienne culture qui consistait justement à suivre de manière très stricte les consignes du parti, qu'on soit dans la majorité ou dans l'opposition, qu'il y aura peut-être une forme de nouvel orgueil qui reviendra chez ces députés.
Oui, c'est possible encore que ces députés, alors on verra, mais encore que ces députés auront peut-être un autre problème qui est par manque de cursus électoral, faute d'avoir rempli des mandats au préalable, on imagine qu'ils auront peut-être une vue trop étroite sur ce qu'ils connaissent, leur métier, le métier qu'ils ont connu, et donc ils auront peut-être du mal à participer à un travail parlementaire. Le mot « travail » est essentiel pour comprendre l'histoire parlementaire. Donc là, si vous voulez, vous avez quand même un verrou important. La discipline partisane, l'attachement partisan, l'attachement, par exemple, pour des socialistes, à sauver ce qui peut être sauvé de la vieille maison, je pense qu'il ne faut pas l'enterrer, ça. Je pense qu'il y a un attachement à une histoire partisane. La preuve, c'est que dans l'histoire politique française, ce sont précisément les socialistes qui ont été les premiers à introduire la pratique de la discipline partisane. C'était le seul groupe qui votait comme un seul homme à partir de 1905 et des années suivantes. Ensuite, bien sûr, les communistes. Et il a fallu attendre très très tard pour que, par exemple, le centre-gauche, les Ratsok, les radicaux, le centre-droit ou la droite acceptent et passent sous les fourches codines de la discipline partisane.
Que pensez-vous, Pierre Mathieu, de ce poids justement de la discipline partisane? Est-ce qu'on peut, alors c'est vrai qu'on est toujours forcément conduit à émettre un certain nombre d'hypothèses ce soir, mais dans la perspective des législatives et de ce que sera l'Assemblée nationale après ces élections, est-ce qu'on peut penser quand même que ce poids sera quand même encore suffisamment fort pour que cette discipline prévale, que ce soit d'ailleurs pour les députés qui appartiendront à ce que sera la majorité ou ceux qui seront dans l'opposition?
Oui, alors juste un tout petit point par rapport à la Troisième République de précision par rapport à ce qui a été dit, c'est que sur la Troisième, les textes pour être définitivement adoptés devaient passer par le vote du Sénat. Donc il y avait aussi un rôle particulier du Sénat qui venait redonder sur le rôle de la Chambre des députés. Bon, mais c'était juste un petit ajout à ce qui a été dit par mes collègues. Alors par rapport à votre question, ce qui est intéressant, c'est qu'on va probablement vers une Assemblée qui va être composée peut-être, qui va être très largement renouvelée, qui va probablement compter 60-70% de nouveaux élus. Et parmi ces nouveaux élus, énormément de députés seront, ça sera leur premier mandat. Ça sera la première fois qu'ils exerceront un mandat en dehors parfois de mandats locaux du type conseiller municipal, voire conseiller régional. Bon, donc ça veut dire que leur métier, ils n'ont pas beaucoup de métiers. Ils ne sont pas des professionnels de la politique, ce qui est plutôt bien, je pense, par rapport au renouvellement nécessaire de notre fonctionnement démocratique. Mais en même temps, le problème, c'est que très peu d'entre eux ont du métier, de l'expérience, de la connaissance des rouages du fonctionnement du Parlement. Et énormément d'entre eux sauront qu'ils doivent leur élection un petit peu à leur personne, mais beaucoup à la marque qu'ils vont incarner et porter dans la campagne. La marque République En Marche, la marque France Insoumise, la marque Front National, etc. etc. Ce qui veut dire que vous, pour avoir une forme d'autonomie dans le travail parlementaire, c'est-à-dire que parfois pour voter en dépit des consignes de son groupe, il faut disposer de ressources personnelles, aussi bien des ressources en termes de connaissance du fonctionnement du Parlement que des ressources en termes de capacité à s'abstraire des consignes d'un groupe parlementaire auquel on appartient et à qui on doit son élection comme député. Ce qui veut dire que on va probablement vers une assemblée dans laquelle les groupes parlementaires, celui du FN, celui de la France Insoumise, celui de la République En Marche, seront probablement des groupes très disciplinés, A fortiori, si les majorités sont très très courtes et qu'il faut, il faut que tout le monde vote, hein, un peu les godillots gaullistes du passé. Et finalement, les seuls groupes qui probablement incorporeront des élus, qui auront des ressources personnelles leur permettant parfois de jouer solo, ce seront les groupes issus des partis plus traditionnels et donc les groupes composés de députés déjà relativement expérimentés en politique, connaissant les rouages du Parlement d'un côté et d'autre part étant capables d'assumer éventuellement le risque politique de se distinguer de leur groupe parlementaire.
Marianne Coindé.
Oui, entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit, ça me semble très important. On va avoir des professionnels avec des équipes d'amateurs qui seront soumis à leur chef et on retrouve des accents gaullistes très forts dans ce qui s'est passé ces derniers jours. Monsieur Macron se présente vraiment dans la geste gaullienne du début de la Ve République. Alors, les gros écarts quand même par rapport à la Ve République, c'est, me semble-t-il, deux points. D'abord, la rationalisation du parlementarisme. Souvenons-nous bien que la Ve République a été conçu, structuré, organisé justement pour permettre de résister aux grandes divisions du Parlement. On se souvient que De Gaulle disait qu'on peut pas gouverner dans un pays où les gens aiment des centaines de fromages et qui sont toujours divisés. Donc, il y a tout un tas de mécanismes et toute une structure juridique très forte qui donne des pouvoirs très importants à la fois au président et au Premier ministre pour lutter contre la division des partis. Donc ça, on pourra y revenir, mais ça me semble absolument essentiel. Deuxième phénomène très important aussi, c'est l'importance des groupes politiques au Parlement. Sous la Ve République, de plus en plus ces dernières années, ce sont les groupes politiques, et en particulier avec l'évolution de 2008, les groupes de l'opposition, qui, en tant que tels, sont compétents pour organiser tout un tas d'actions au sein du Parlement. Et donc, ça va lutter contre ce phénomène de retour à la conscience individuelle et ou alors il faudra qu'ils constituent d'autres petits groupes. Peut-être qu'on va voir aussi apparaître des groupes un peu différents. On voit qu'à l'intérieur des partis, il y a des mouvements qui se constituent. Et peut-être qu'on aura la même chose, des groupes un petit peu autonomes à l'Assemblée ou au Sénat.
Il y a eu une réforme constitutionnelle qui a été importante, celle de 2008, qui a donné qui a une nouvelle répartition des pouvoirs, enfin une nouvelle répartition des pouvoirs, en tout cas de nouveaux pouvoirs, notamment à l'opposition. Cette réforme-là, Nicolas Rousselier, elle n'a pas contribué justement à permettre à l'opposition d'exercer sa fonction de manière un peu différente que dans une opposition systématique par rapport à la majorité ?
Oui, en partie, grâce à la révision de 2008, l'opposition a pu, par exemple, occuper des postes de président de commission, donc dans un esprit qui
notamment
était
celle des finances,
voilà,
qui est quand même
finances,
importante.
Voilà, dans un esprit qui était effectivement d'associer l'opposition à une forme de coproduction législative. Mais c'est en même temps, c'est un peu ironique parce que l'esprit de 2008 était une manière de penser que, en fait, la Ve République était tellement allée loin dans la logique du présidentialisme majoritaire, à savoir il y a une majorité donnée à l'avance, fixée, et une opposition. Finalement, l'opposition est tout aussi godillot que la majorité. Donc les deux sont fixés à l'avance, si bien que la révision de 2008 a donné un statut à l'opposition, comme si elle était fixe. Donc c'est par exemple très concrètement la répartition de l'ordre du jour. Les séances qu'on peut se répartir, toi un jour tu fais la majorité et la majorité a choisi tel ou tel sujet à aborder. Et puis toi, tel autre jour, opposition, tu vas faire un autre sujet. Et donc c'est assez ironique par rapport à ce qui risque de se passer. Parce que là, qui est dans l'opposition, on ne le sait pas. Il y a des groupes qui vont être des groupes à la marge, on va dire qui vont aller de l'un à l'autre. Donc ça risque de poser des problèmes au règlement de l'Assemblée nationale, même si c'est un peu de la cuisine tout ça, et ils trouveront des moyens de s'adapter. Mais c'est quand même important. Si vous voulez, je pense aussi que sur le fond, l'opposition, on a souvent parlé d'opposition constructive, dans le sens que elle était participante de la fabrique de la loi, de la fabrication des lois. Donc très concrètement, dans les commissions, dans les votes, par exemple, une partie de l'opposition sous la Troisième République, souvent, ne votait pas le texte final pour bien montrer qu'elle était une opposition, mais elle votait tel ou tel amendement, par exemple des amendements clés. C'est ce qui s'est passé pour la loi de 1905 sur la séparation.
Est-ce que c'est pas ce qui se passe aujourd'hui dans le travail de commission, même si ça se passe
non,
pas au niveau du vote des amendements ?
Pas, vraiment pas à ce point-là. Mais ça pourrait se passer à partir du mois de juin, du mois de juillet, sur certains sujets. En même temps, donc vous avez cette logique du législateur. C'est-à-dire que les législateurs, autrefois, dans les vieux livres de droit, je regarde Marianne Corandet, on les appelait des magistrats. Magistrats législateurs. Sous-entendu, ce sont des magistrats qui, au nom de l'intérêt général, doivent peser et sous-peser les avantages de telle ou telle proposition et se prononcer en conscience. Mais à côté, vous avez une autre logique, la logique purement politique, qui est que, notamment en vue des prochaines élections, il faut prononcer, il faut exprimer l'opposition face au gouvernement, face à la majorité, pour donner des repères. C'est une sorte de production de repères pour l'électorat.
Et plus peut-être la majorité est compliquée à cerner, plus le travail de l'opposition risque d'être là aussi compliqué, Marianne Corandet.
Oui, ça risque d'être très très compliqué. Alors pour savoir à quoi elle peut servir cette opposition, il faut savoir à quoi sert la majorité. Et effectivement, comme Nicolas Rousselier vient de le dire, la majorité, ça sert d'abord à voter les lois. Il faut avoir une majorité. Alors une majorité simple, des suffrages exprimés pour voter la loi. Et puis la majorité, ça sert aussi, surtout, à soutenir l'existence du gouvernement et à éviter de le renverser. Car au fond, et ça a été rappelé tout à l'heure, le gouvernement n'a besoin d'une majorité que pour voter ses lois et survivre. Donc ce qu'il faut, c'est éviter d'avoir contre soi une majorité absolue des membres composant l'Assemblée qui s'exprime favorablement à une motion de censure. C'est ça qu'il faut éviter. Et alors, pour une motion de censure, les oppositions, parce qu'à mon avis, on n'aura pas une, mais des oppositions, les oppositions peuvent se regrouper pour renverser le gouvernement.
Et c'est... Voilà. Mais quand même, la grande chance de Macron, et maintenant du gouvernement d'Édouard Philippe, c'est qu'il y a l'éclatement des oppositions, et je vois mal, même s'il faut toujours être prudent en ce moment, je vois mal un alignement de planètes hostiles où on verrait dans le vote d'une motion de censure, va probablement, pour être réussi, il faudrait que les Républicains votent avec France Insoumise, avec Front National.
Alors, est-ce que de la même manière, Pierre Mathiot, qu'on imagine aujourd'hui des majorités de projets, on pourrait imaginer des oppositions de projets, ou bien est-ce que là, notre culture politique est quand même là aussi suffisamment forte pour que cette hypothèse ne soit pas à l'ordre du jour?
En sciences politiques, on dit qu'on est actuellement dans une conjoncture politique fluide, une plasticité de la conjoncture politique. Alors, je rappelle qu'il n'y a eu qu'une seule motion de censure depuis 1958, quand même, et sur un sujet qui était relativement important, en 62, et en plus, c'est directement en lien avec l'actualité, puisque c'est l'élection du président de la République. Sinon, il n'y en a jamais eu. Alors, en effet, je crois qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron va pouvoir probablement, faut pas faire de pronostic, mais va pouvoir probablement compter, entre guillemets, sur plusieurs oppositions irréductibles l'une à l'autre. Parce qu'en effet, politiquement, si la France Insoumise a un groupe, il lui sera quand même compliqué d'envisager le dépôt d'une motion de censure dont il proposerait le vote au Front National. Parce que là, pour le coup, en termes de d'opinion publique, entre guillemets, ça pourrait être mal interprété. Donc je pense que plus il va y avoir des oppositions diverses, finalement, je pense que c'est un petit peu la stratégie façon puzzle d'Emmanuel Macron en ce moment, et au fond de disperser. Et vous allez voir, il peut très bien y avoir un groupe, et moi je vois venir ça gros comme une maison, un groupe de quelques députés élus sous le label UDI Les Républicains, qui risque de s'autonomiser comme l'UDC Les Centristes en 1988, s'autonomiser pour être une espèce de groupe technique qui quitterait le groupe des Républicains pour, se positionner en soutien critique à Édouard Philippe qui vient de leur rang. Donc on peut avoir très bien 7-8 groupes parlementaires ayant des stratégies, des attentes très 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 diverses, et le président Macron et le Premier ministre peuvent très bien jouer de cette opposition entre ces oppositions pour faire en sorte que jamais il n'y ait de motion de censure. Mais simplement, ça suppose quand même un casting très important, à mon avis, sur deux fonctions: le président ou la présidente de l'Assemblée et le ministre des Relations avec le Parlement.
Donc la façon dont on pourrait répondre à la question de ce soir, en la modifiant légèrement, à quoi vont servir les oppositions, notamment à stabiliser la majorité, Nicolas Rousselier.
Oui, et puis elles vont se desservir les unes les autres, les unes par rapport aux autres. Si on prend l'exemple très concret qui va arriver assez vite, de le vote nécessaire d'une loi d'habilitation pour ensuite faire les ordonnances. La loi d'habilitation, donc, elle sera faite pour faire des ordonnances qui concernent notamment les réformes du marché du travail. Là, on peut imaginer très bien que le groupe France Insoumise votera contre la loi d'habilitation, peut-être de même aussi que le Front National. Par contre, on imagine mal le groupe socialiste dans son entier voter contre, peut-être qui se réfugieront dans l'abstention. Et on imagine mal le groupe Les Républicains voter contre aussi cette loi d'habilitation, puisque c'est une partie de leur programme. Donc au fond, l'éclatement des oppositions va avoir comme conséquence effectivement de servir à la fois la majorité, mais je dirais aussi d'une manière plus globale, que même s'il n'est pas présent physiquement, au fond dans tout ça, le grand gagnant de ce paradoxal, le grand gagnant de ce pseudo-retour à du parlementarisme, c'est le président, c'est le présidentialisme qui sera quand même le grand stratège. On le voit qu'il est déjà dans une bonne dimension, parce que il y aura cette division de la majorité. Comme un stratège en termes militaires, un Napoléon qui divise une aile adverse en envoyant sa cavalerie, qui divise en trois groupes l'armée adverse, et puis ensuite on...
Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à émettre l'hypothèse, Marianne Courandet, que pour le nouveau président de la République, Emmanuel Macron, plus l'opposition est forte, c'est quand même de l'opposition, lui à sa majorité, mais plus l'opposition est forte et divisée, plus lui peut se sentir justement renforcé dans son pouvoir.
Diviser pour mieux régner, c'est un vieux principe de Philippe de Macédoine qu'on connaît tous très bien, et il n'y a aucun doute, et en plus dans la logique trégolienne qui est la sienne, que ça rentre parfaitement dans sa stratégie. Mais
alors, et est-ce que d'ailleurs le passé plus ou moins récent nous enseigne-t-il pas qu'il vaut mieux peut-être avoir une majorité qui est réduite plutôt qu'une très très large majorité avec des risques de naissance d'opposition en interne? C'est-à-dire si la majorité est un petit peu fébrile, on la tient davantage que si elle se sent beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus libre finalement.
Oui, alors toute majorité,
je pense aux frondeurs
d'ailleurs,
notamment.
Oui, toute majorité. Pendant les cohabitations aussi en 86-88, la majorité était très petite, très étroite, et c'était sa faiblesse qui faisait sa force, justement. Alors là aussi, une arme quand même du président, donc il essaye de diviser pour régner. En cas de blocage, si jamais les oppositions se fédéraient pour le renverser, par exemple sur la loi travail ou sur un autre sujet européen par exemple, il a des armes énormes que n'avait pas le président de la 4e. C'est-à-dire qu'il peut commencer par dissoudre, et là on a eu une dissolution en 62, et ensuite il peut faire un référendum, parce que là aussi dans la geste gaullienne on peut envisager ça. Why not un référendum sur le mode de scrutin, et pourquoi pas en introduisant un mode de scrutin qui permettrait de rassembler un peu plus les Français, tel qu'un scrutin par note, où on donne une note à tous les candidats, et qui probablement réduirait l'impact du Front National et permettrait à des petits partis comme les écologistes ou à d'autres de mieux se faire entendre, et surtout au président de jouer son rôle fondamental de rassembleur.
Alors là, vous allez encore plus loin dans la réforme de scrutin que celles qui sont en général évoquées, ou s'agissant des législatives, il est le plus souvent question de proportionnel, d'une dose de proportionnel en général, c'est ce que disent les chefs de l'État. Je crois que Nicolas Sarkozy en avait parlé, François Hollande en avait parlé, Emmanuel Macron en a parlé. On verra bien s'il l'applique ou pas, mais ça dit aussi peut-être, ça donne peut-être une idée de la façon dont ils peuvent considérer la place qu'ils entendent accorder à l'opposition, puisque c'est notre sujet de ce soir, Nicolas Rousselier.
Oui, je voudrais aussi ajouter quelque chose qui est, je crois, intéressant et en même temps, en quelque sorte, un peu amusant sur le contexte historique. Il faut bien se rappeler que 58-62, la Ve République est conçue en supposant, on voit très bien ça dans les textes de Michel Debré, par exemple, en supposant que l'Assemblée sera ingouvernable, comme d'habitude, comme c'était la tradition parlementaire. C'est-à-dire que les pères de la Ve République n'avaient pas pensé, n'avaient pas anticipé sur, finalement, le succès de la Ve République. Ils n'avaient pas pensé qu'ils allaient être capables de transformer cette culture dont je parlais tout à l'heure, parlementaire, en une culture de discipline. Donc, ce qu'on appelle le fait majoritaire est arrivé comme la surprise du chef. Donc, c'est intéressant de savoir ça, parce que le logiciel de la Ve est conçu face à une Assemblée qui est, que l'on pense comme ingouvernable, c'est-à-dire ne pouvant pas dégager une majorité et une opposition claire, d'où ces fameux armes de guerre, on peut dire, le 49-3, même si aujourd'hui il est un peu plus limité, il y a la loi d'habilitation, les ordonnances. Donc c'est pour ça qu'en fait, en raison du caractère incertain, fluide d'une assemblée, on avait imaginé des armes extrêmement fortes, on peut le dire, des armes extrêmement brutales, en faveur de l'exécutif.
Sauf que ces armes, on a l'impression qu'elles ont servi ces dernières années davantage contre la majorité que contre l'opposition, finalement, Nicolas Rosselier.
Oui, c'est vrai, mais on peut s'en servir de nouveau face à des oppositions plurielles qui, à un moment ou à un autre, et Marianne Coandé a raison, sur un sujet européen, à un moment ou à un autre, ce dont je parlais tout à l'heure, l'alignement négatif de planètes, des différentes oppositions, n'est pas totalement à exclure. Donc là, les armes de l'exécutif sont là. Autrement dit, si vous voulez, ça n'est pas parce qu'on parle d'un changement de l'Assemblée nationale, d'un changement du côté parlementaire, que la Ve République est à bout de souffle ou est terminée. Parce qu'elle peut retrouver cette logique qui, finalement, c'est ironique, c'est qu'était sa logique d'origine.
Oui, ça me semble extrêmement important. Et effectivement, toutes ces armes ont été conçues pour une majorité chancelante, défaillante, voilà, incapable d'être constituée. Et c'est une artillerie lourde extrêmement forte, c'est-à-dire dans les mains du président qui a ses pouvoirs personnels, dissolution, référendum, nomination du Premier ministre, pouvoir exceptionnel, message au Parlement, nomination des membres du Conseil constitutionnel, et puis le Premier ministre qui peut mener le Parlement à la baguette du début à la fin de la loi et jusque dans son application, avec des règlements autonomes, avec des ordonnances. Il a vraiment des pouvoirs énormes faits pour ça.
Donc il faudrait quoi ? Il faudrait réarmer le Parlement, l'opposition, les deux en même temps ?
Alors, mais justement, rien qu'en ayant une majorité plus divisée, on arrivera peut-être à une cinquième plus équilibrée. Parce que, vous le disiez très justement, ces armes ont été utilisées pendant des années en plus du scrutin majoritaire et d'une majorité très disciplinée. Et donc ces armes qui étaient faites pour suppléer aux carences d'une majorité flageolante ont été utilisées pour mener à la baguette une majorité disciplinée. Donc on pourrait arriver à plus d'équilibre et voir si ces armes fonctionnent bien, ce qui n'est pas du tout à exclure.
Alors, dans le programme d'Emmanuel Macron, il y a certaines mesures qui concernent directement le Parlement. Il fait le constat, lui, qu'il y a d'abord trop d'élus au Parlement. Il y a trop de lois qui sont votées et qu'il y a trop de temps qui est consacré aux discussions. Il propose notamment de faire de la procédure d'urgence la procédure par défaut, c'est-à-dire plutôt que d'avoir la double navette, de limiter le temps d'échange. Est-ce que vous y voyez, par Pierre Mathiot, dans cette approche-là, une volonté de réarmer le travail parlementaire ou au contraire de le contourner encore davantage?
Je pense que ce qu'il faut avoir en tête, hein, je redonde sur ce qui vient d'être dit, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'Emmanuel Macron, il a une conception du rôle du Parlement, mais plus globalement disons du rôle des institutions, qui est assez en rupture. C'est-à-dire qu'en fait, on raisonne trop en pensant qu'il fait partie, disons, de la classe politique traditionnelle et que d'une manière ou d'une autre, il est attaché à respecter un certain nombre de pratiques. Moi, je crois qu'il est très, je vais utiliser un terme qu'il utilisait lui-même, très disruptif, c'est-à-dire qu'il se fiche pas mal de la manière dont, je pense, l'Assemblée nationale a fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, ça ne va pas du tout le gêner, comme ça a été dit par mes collègues, ça ne va pas du tout le gêner d'aller chercher des majorités de circonstances selon les textes, là où des politiciens plus traditionnels trouveraient que c'est une forme d'hérésie, parce que voilà, quand on est de droite, on cherche la majorité de droite, quand on est de gauche, on cherche la majorité de gauche. Et ensuite, je pense qu'il va probablement tenter de jouer l'opinion publique contre les parlementaires si ceux-ci veulent bloquer ou si ceux-ci l'accusent, en mettant en avant l'efficacité, en disant, écoutez, voyez bien qu'on peut travailler beaucoup plus vite que ce que les parlementaires disent. Je vais utiliser la procédure d'urgence, je vais la mettre en scène, je vais expliquer pourquoi. Et en même temps, je fais exprès de dire en même temps, et en même temps, je vais annoncer des mesures destinées, par exemple, à montrer mon souci que la diversité des opinions soit représentée avec la proportionnelle, par exemple, une dose proportionnelle, etc. Vous voyez, donc il va jouer de cela et il va probablement prendre l'opinion à témoin si d'aventure, le mercredi après-midi, lors des éditions parlementaires, les choses partent un petit peu n'importe comment, si évidemment vous avez la France Insoumise d'un côté, le Front National de l'autre, qui utilise les questions au gouvernement comme une espèce de tribune médiatisée, etc., etc. Il peut très bien l'utiliser pour montrer que quelque part, les partis politiques traditionnels sont définitivement délégitimés, irresponsables, etc., etc. Je pense qu'il est tout à fait prêt à le faire, et je pense que il le fera d'une manière ou d'une autre, s'il a bien entendu une base d'élus expérimentés pour le soutenir, c'est très important, et s'il a des troupes, des spécialistes de la geste parlementaire autour de lui, un modèle un petit peu à la Guy Carcassonne, si vous voyez ce que je veux dire, au temps de Michel Rocard, c'est-à-dire des gens qui vont avoir une culture du fonctionnement de l'Assemblée et une connaissance des arcanes juridiques du droit parlementaire pour l'aider à mettre en œuvre ce qu'il a envie de mettre en œuvre.
Nicolas Rosselier.
Oui, je confirme effectivement cette impression que j'ai moi aussi, à savoir tout ceci place le président au centre du jeu. C'est-à-dire qu'il peut très bien à la fois, sans vouloir faire un jeu de mots par rapport à votre émission, donner du grain à moudre aux parlementaires, des os à ronger sur des... je dis ça, il ne faut pas le prendre au sens péjoratif, ça peut être des sujets extrêmement sérieux, qui peuvent d'ailleurs prendre plusieurs mois et de longs mois d'élaboration, des sujets de société, des sujets qui peuvent justement construire un consensus ad hoc sur ce sujet-là. Donc comme ça, le Parlement travaille, si possible. En revanche, à côté de ça, il y a des sujets qui seront préemptés présidentiels, c'est-à-dire qui auront la marque présidentielle, d'où procédure accélérée, l'ancienne procédure d'urgence, ou bien vote bloqué, ou bien 49-3. On peut en faire un par séance, et on peut faire un 49-3, au fond, sur une loi, par exemple, un projet de loi extrêmement large, ce qu'on appelle un cavalier, donc une loi omnibus, même s'il y a des limites juridiques, et donc là, faire passer les priorités, on peut penser là aux réformes économiques et sociales.
Puisque manifestement, il y a un souci d'efficacité dans la perspective de ce prochain quinquennat, des prochaines sessions parlementaires, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi se dire qu'on va aller chercher à l'étranger un certain nombre de bonnes pratiques en la matière, et notamment du point de vue de l'opposition? Alors quand on parle d'opposition, de bonnes pratiques, on va forcément au Royaume-Uni en parlant du cabinet fantôme, ce gouvernement bis qui existe, qui n'existe pas en France, qui a failli exister, je veux dire, je m'en souvenais pas, mais en 2007, juste après les législatives, à gauche, on tente de mettre en place un shadow cabinet.
Sortir de l'ombre, reprendre la main, devenir une réelle force d'opposition. Jean-Marc Ayrault, tout juste réélu à la tête du groupe socialiste, prend l'initiative et sort des cartons une idée germée en 1966, un cabinet fantôme sur le modèle anglo-saxon.
Moi, ce que je veux, c'est qu'on nous comprenne, hein, et que quand on s'oppose, on sache pourquoi, et qu'en même temps, on voit que l'opposition, elle a quelque chose à proposer au pays, pour que ça soit utile aux Français.
Alors, pour mieux se faire comprendre, il crée un gouvernement virtuel. Une équipe de 15 personnalités de gauche, calquée sur l'équipe Fillon, est chargée de répliquer aux 15 ministres. L'ami de Ségolène Royal, Jean-Marc Ayrault, a pris soin d'y représenter toutes les composantes du Parti Socialiste, bien décidé à maintenir envers et contre tous la cohésion de son groupe à l'intérieur de l'hémicycle. Le très royaliste Arnaud Montebourg aura dans son viseur son ancien ami Éric Besson. Le très fabusien Philippe Martin se chargera de Jean-Louis Borloo. Manuel Valls en découdra avec Michel Alliot-Marie sur toutes les questions de sécurité intérieure.
Alors nous étions en juin 2007 après les législatives. Cabinet fantôme, un reportage de France 3, un cabinet gouvernement fantôme en France, Marianne Courandet.
Ça serait une idée formidable, mais là ça va être difficile à réaliser parce que ça suppose une opposition unie et forte, ce qu'il y a en Grande-Bretagne, ce qu'on a le plus souvent, mais ce qu'on n'aura probablement pas ici. Donc l'opposition de surcroît, certes depuis 2008, a plus de droits, mais ce sont des grivolos, ce sont vraiment des petits droits de rien du tout, qui ne changent pas la face du monde et qui ne permettent pas à l'opposition d'être très efficace. Alors sinon, effectivement, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit par Nicolas Rousselier. On trouve chez M. Macron, à mon sens, une sorte de triptyque entre De Gaulle, Kennedy et un dirigeant de start-up. Avec cette mentalité assez nouvelle et assez positive et intéressante, par exemple, sur, oui, bien sûr, la recherche de l'efficacité, alors peut-être pas toujours avec suffisamment de valeur comme on aimerait en voir, mais aussi une certaine bienveillance, une certaine ouverture à l'esprit d'autrui, qui est très fort dans les start-up américaines, effectivement une aptitude à réunir des gens sur des idées, sur des projets, en se détachant de l'ancrage historique. Donc ça peut avoir des aspects très positifs, d'autres peut-être un peu moins, mais ça va être effectivement une façon un peu nouvelle de voir les choses.
Ça, c'est la constitutionnaliste qui parle, qui se dit, tiens, voilà, peut-être que pour mes travaux, je vais pouvoir un peu me renouveler, parce qu'il y aura une pratique du pouvoir qui sera très différente.
Il y a le mode de scrutin que Marianne a en tête et qu'elle pourrait proposer. Alors oui, ça, c'est une vision qu'on peut tout à fait avoir. Et en face, on peut dire aussi que, je reprends ce terme de dossiers chauds, de dossiers qui sont préemptés depuis l'Élysée. Là, en revanche, c'est l'efficacité qui s'imposera. Hein, et donc peut-être une forme ou une autre de procédure autoritaire.
Voilà, il y a un vrai risque aussi d'une certaine forme d'autoritarisme du président.
Voilà, on parlera peut-être de bienveillance autoritaire au moment de faire le bilan du quinquennat Macron, on verra bien. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. On va poursuivre notre réflexion sur la recomposition politique du moment tout au long de cette semaine. Ça ne sera pas le cas demain, puisque demain la question que nous poserons sera la suivante. Le piratage informatique menace-t-il nos libertés ? Merci Nicolas Rousselier, Pierre Mathieu et Marianne Condé. Merci à l'équipe du Grain. Cyril Baer, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Philippine Lebray et Louise Fuseau. Émission réalisée par Anne Kobilac avec à la prise de son Jean-Guilain Meige.